Le journal de 18h. Bonsoir Hélène Fromanti.
Bonsoir Claire Servagent, bonsoir à tous. La chasse proscrite le week-end et pendant les vacances, si Yannick Jadot accède à l'Élysée. Le candidat écolo ne veut plus d'accidents liés au coup de fusil. La droite dénonce une lubie, nous y reviendrons. Dans le journal également, le procès des attentats du 13 novembre, les séquelles des victimes évoquées à la barre. Nous reviendrons aussi sur ce tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Joe Biden à la veille du G20. Les présidents français et américains ont tenté de faire la paix après la crise des sous-marins australiens. Et puis, une bande dessinée pour mieux affronter le chaos climatique. Un ouvrage alarmant, mais nécessaire, qu'on vous présente en fin de journal.
France Inter.
Aller à la chasse, aller chasser le sanglier ou la perdrix pendant ces jours de congé. Un plaisir pour les uns, une aberration pour les autres. Le candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, fait partie, sans surprise, de la deuxième catégorie. L'eurodéputé, s'il est élu à la présidence, interdira même la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires.
Trop de Français ont peur d'aller en forêt, ont peur d'aller dans la nature dès qu'il y a la chasse, parce qu'on connaît les accidents de chasse. Parce que simplement, quand on est dans la nature, on n'a pas envie d'entendre des coups de fusil. Il faut que la règle soit simple. Elle est appliquée dans plusieurs pays européens. Au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, on ne chasse pas le dimanche. En Italie, il y a au moins 2 jours par semaine sans chasse. Il faut faire la même chose en France aujourd'hui. On a eu trop de présidents et on a trop de responsables politiques qui sont sous influence du lobby de la chasse.
Yannick Jadot qui vise Emmanuel Macron et aussi la droite en particulier. Philippe Gosselin, député Les Républicains de la Manche, prend la défense des chasseurs.
C'est une vieille lubie des Verts et de certains groupes anti-chasse, parce qu'en réalité, interdire la chasse le week-end et pendant les vacances, ça revient de fait à interdire la chasse à un nombre très important de chasseurs. Vous savez, la chasse, c'est aussi une activité, un loisir très populaire. Voilà, que les Verts assument purement et simplement de vouloir supprimer la chasse en France, ça sera plus honnête, à la fois intellectuellement et politiquement.
Alors, des propos recueillis par Simon Le Baron du service politique de France Inter.
Des plaies, des cicatrices, des mots que certains porteront toute leur vie.
Au procès des attentats du 13 novembre, la cour d'assises spéciale s'est penchée aujourd'hui sur les séquelles des victimes, paroles données notamment aux médecins qui sont intervenus le soir des attaques. Ariane Grissel, vous suivez ce procès pour France Inter, vous êtes en direct du palais de justice de Paris. L'un des spécialistes, Ariane, est notamment revenu sur les blessures physiques des victimes.
Le docteur Ola est médecin militaire. Après le 13 novembre, il a opéré une vingtaine de blessés. J'ai 14 missions à l'étranger à mon actif, donc cette expérience des blessures balistiques, explique le spécialiste qui évoque des pratiques de champ de guerre. Les premiers blessés sont arrivés quasi immédiatement, mais on ne sait jamais combien vont suivre. Il y a un risque de saturation. Alors, dit le praticien, il faut trier, donner des priorités. On recherche tous les orifices de projectiles. On imagine les dégâts des tissus sous-jacents. Le médecin détaille ces balles qui explosent dans le corps, puisque les professionnels appellent les 10 minutes de platine. Ces instants d'hémorragie qui peuvent être fatales. Si l'artère fémorale est touchée, vous avez 2-3 minutes, explique le docteur Ola. Une fois passées les premières opérations, puis les risques d'infection, il faut au moins 9 mois pour retrouver les principales fonctions de son corps. Vivre pour beaucoup avec des éclats de métaux, ces résidus qui empêchent ta vie de passer une IRM. Une avocate interroge le praticien sur ces personnes très gravement touchées, mais qui ont quand même trouvé la force de fuir. C'est l'état de sidération, répond le médecin militaire. La douleur est suspendue. C'est l'instinct de survie.
Ariane Grissel en direct du palais de justice de Paris avec les moyens techniques de Julien Girard. Le procès des attentats du 13 novembre, c'est aussi un dossier complet à retrouver sur franceinter.fr. Cette attaque-là a endeuillé la ville de Nice il y a un an jour pour jour. Le 29 octobre 2020, un homme armé d'un couteau tuait 3 fidèles dans la basilique Notre-Dame en plein centre-ville. 12 mois plus tard, une stèle est dévoilée, une messe célébrée en mémoire des victimes. Nous serons sur place dans le journal de 19h d'Hélène.
Un rapport accablant pour l'École nationale supérieure de Lyon.
Après une vague de dénonciations d'agressions et de harcèlement sexuel au sein du prestigieux établissement au printemps dernier, une enquête a été ouverte et l'organisme chargé des investigations vient de rendre ses conclusions. Selon l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, la présidence de l'ENS n'a pas su réagir à la hauteur du problème. Une liste de 27 situations de violences sexistes et sexuelles a pu être reconstituée depuis 2017. 27, Cyril Ardoux.
Parmi ces 27 situations, 9 viols. Les victimes présumées sont toutes des étudiantes. Les auteurs présumés sont quant à eux des étudiantes, des personnels de l'ENS ou des personnes extérieures à l'école. 27 situations relevées donc, mais la présidence n'en avait connaissance que de 15, car certains membres de l'administration n'ont pas transmis les informations dont ils avaient pourtant connaissance. Mais même quand la présidence était au courant, elle n'a pas suffisamment réagi. Seules 2 situations ont donné lieu à des procédures disciplinaires. Les autres dossiers sont clos ou ont été déclarés comme en cours d'instruction. L'inspection générale de l'éducation estime que la présidence de l'ENS Lyon a contribué à construire un sentiment de peur chez les victimes présumées et a entretenu un climat social délétère. La mission a formulé 7 recommandations, parmi lesquelles conclure un accord avec les autorités judiciaires pour suivre les procédures en cours ou encore mieux préciser les étapes du traitement d'une situation de violence sexiste et sexuelle. À Lyon, Cyril Ardo, France Inter.
7 ans après ses propos sur la fournée, Jean-Marie Le Pen vient d'être relaxé. L'ancien président du Front National était jugé pour provocation à la haine raciale. En 2014, s'en prenant à des artistes engagés contre l'extrême droite, dont le chanteur Patrick Bruel d'origine juive, Jean-Marie Le Pen avait déclaré dans une vidéo « On en fera une fournée la prochaine fois », suscitant un tollé. Lui se rendra bien au tribunal et sans le concours de la force publique, Nicolas Sarkozy, appelé à témoigner au procès de ses anciens proches dans l'affaire des sondages de l'Élysée, il confirme qu'il sera présent mardi au tribunal de Paris. L'ancien chef d'État avait d'abord fait savoir qu'il ne viendrait pas. Il doit être entendu comme témoin mais ne peut pas être poursuivi compte tenu de son immunité.
Il se retrouve pour la première fois depuis la crise des sous-marins australiens.
Emmanuel Macron et Joe Biden face à face il y a quelques instants à Rome, en Italie, à la veille du sommet du G20. Le président français a reçu son homologue américain à l'ambassade de France avec un objectif, se rabibocher après que les États-Unis ont piqué à la France ce gros contrat pour vendre à l'Australie des sous-marins nucléaires. Yannick Falt, l'entretien entre les deux chefs de l'État vient de s'achever.
Non, l'entretien est en cours, à 1h30 de retard sur l'horaire prévu. Emmanuel Macron, qui a l'habitude d'être en retard, s'est pour une fois retrouvé dans la situation de celui qui attend, car Joe Biden a enchaîné les rendez-vous, le pape à la mi-journée, l'hôte du G20 tout à l'heure, le Premier ministre italien Mario Draghi. L'entretien a donc débuté il y a un quart d'heure maintenant, ici, Villa Bonaparte. Ce n'est pas l'ambassade de France en Italie, mais l'ambassade de France au Vatican. Une rencontre dans un lieu français, en tout cas, l'Élysée insiste, c'est le président Macron qui reçoit le président Biden, une symbolique très politique. Une symbolique et une prise de parole des deux présidents tout à l'heure avant leur tête-à-tête. Emmanuel Macron prudent dans son expression qui évoque l'amorce d'un processus de confiance. Un chemin long et exigeant avait prévenu un peu plus tôt Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, alors que Joe Biden de son côté a répété que la France était un allié loyal, précieux. Ce qui s'est passé est maladroit, a reconnu le président américain qui dit vouloir continuer à coopérer avec la France. Voilà pour le poids des mots. Après le choc des photos, Emmanuel Macron et Joe Biden se sont d'abord affichés tout sourire sur le perron de cette Villa Bonaparte avant d'entrer dans le bâtiment en se tapant sur l'épaule.
Yannick Falt, merci. Et avant cet entretien avec Emmanuel Macron, Joe Biden s'est très longuement entretenu avec le pape François au Vatican également. Une première depuis l'arrivée de Biden à la Maison Blanche. Ce sommet du G20 ce week-end devrait aussi être l'occasion pour Emmanuel Macron de s'entretenir avec le Premier ministre britannique Boris Johnson dans un contexte de vive tension sur le dossier de la pêche post-Brexit. Pour l'heure, la surenchère continue alors que Paris promet de sanctionner Londres à propos des licences accordées aux pêcheurs. Londres, de son côté, menace de renforcer les contrôles des bateaux européens. En ce moment même, l'ambassadrice de France au Royaume-Uni est convoquée à ce sujet devant le gouvernement britannique.
L'économie française de retour à son niveau d'avant la crise sanitaire, et cela, Hélène, plus tôt que prévu.
Et oui, l'INSEE table sur 3% de croissance pour le troisième trimestre de 2021, du quasi jamais vu depuis plus de 50 ans, exceptionnel, même selon les mots du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Alors merci qui ? Merci le quoi qu'il en coûte, analyse Mathieu Plane, directeur adjoint à l'Observatoire français des conjonctures économiques.
On a eu peu de faillites, on s'attendait effectivement à un risque très fort du côté des faillites, ça n'a pas eu lieu, en tout cas pas pour le moment. On voit que le marché du travail a rebondi fortement, on a un niveau d'emploi même qui est légèrement supérieur à celui d'avant crise, on voit d'ailleurs des tensions dans les recrutements. Et donc l'économie, à partir du moment où où on relibère quelque part l'économie et qu'on réduit ces mesures sanitaires, effectivement, les ménages reconsomment, les entreprises investissent et donc ça repart assez fortement. Et donc le vecteur premier, c'est finalement la consommation dans les services qui était le plus contraint, et notamment, on le voit, dans l'hôtellerie, la restauration, dans le transport, les services de transport, mais aussi tout ce qui est lié aux services qu'on appelle aux ménages, c'est-à-dire tout ce qui va être activité culturelle, activité de loisirs, événementiel. Donc tout ça est reparti plus vite que prévu. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. C'est là la bonne nouvelle. C'est que donc l'épisode Covid reste extrêmement important, mais on le referme plus vite que prévu.
Mathieu Plane de l'OFCE avec Camille Revel. L'épidémie de coronavirus qui repart, la reprise se confirme selon l'Agence sanitaire Santé publique France. Le seuil des 50 cas pour 100 000 habitants est dépassé dans 44 départements métropolitains. Beaucoup de monde attendu sur les routes ce soir, veille de long week-end de Toussaint. Dans le sens des départs, c'est orange au niveau national, rouge en Île-de-France. Un pont de la Toussaint d'autant plus long qu'on va gagner une heure de sommeil dans la nuit de samedi à dimanche. Nous passerons à l'heure d'hiver à 3h du matin. Il sera 2h. De très fortes pluies, épisode Cévenol en vue entre ce soir et dimanche dans le sud-est de la France. Météo France a placé l'Ardèche, le Gard et la Lozère en vigilance orange, pluie et inondation. Des cumuls d'eau de 150 à 200 mm sont attendus en 24 heures.
Quand l'urgence climatique justement s'illustre en bande dessinée.
À la veille de la COP26 et alors que le festival Quai des Bulles s'ouvre à Saint-Malo en Bretagne, une BD choc arrive dans nos librairies. Le Monde sans fin, signé Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici. Cette BD aborde le réchauffement climatique avec une précision documentaire. Des dizaines et des dizaines de planches pour poser de manière très concrète les bases du débat sur la crise environnementale, Alexis Demeyer.
Comme la sensation d'étouffer à la lecture de cet album très dense, près de 200 pages, où les informations inquiétantes s'entrechoquent sans nous laisser le temps de reprendre notre souffle. C'est en lisant une interview du climatologue Jean Jouzel que Christophe Blain prend conscience que le changement climatique, c'est maintenant. Alors l'auteur de BD se lance dans un vaste projet de vulgarisation scientifique en compagnie du lanceur d'alerte Jean-Marc Jancovici.
Jean-Marc explique des choses extrêmement complexes en utilisant des analogies qui sont lumineuses et frappantes et drôles, même quand le sujet ne l'est pas. Ça, pour un dessinateur, pour quelqu'un qui aime raconter des histoires, c'est du pain béni.
Il est ici bien sûr question de consommation d'énergie, de réduction des gaz à effet de serre et de décroissance, mais les défenseurs de l'environnement risquent d'être déboussolés par la critique des énergies renouvelables et la réhabilitation du nucléaire. Jean-Marc Jancovici.
On a fait sur le nucléaire comme on a fait sur tout le reste, c'est-à-dire qu'on a vulgarisé ce qui se trouve dans l'expertise scientifique et technique. Rien de plus et rien de moins. On ne prend pas parti dans ce livre sur le choix collectif qu'il faut qu'on fasse.
Cet ouvrage nécessaire tire le meilleur parti du médium bande dessinée. Le CO2 est par exemple personnifié en fantôme qui plane au-dessus de nos têtes, tandis que l'énergie prend les traits du super-héros Iron Man.
Alexis Demeyer du service culture de France Inter. Pas de dessin ni de bulle dans cet ouvrage-là, juste des bons mots. Le poulailler Métaphysique de Xavier Galmiche reçoit le prix littéraire Décembre, un roman paru aux éditions Le Pommier sur les réflexions d'un éleveur de volailles intellectuel. Ce sont les deux équipes françaises engagées en Ligue des champions de football et elles s'affrontent ce soir en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain face à Lille au Parc des Princes à 21h. Le PSG privé de Mbappé pourra finalement compter sur Messi, un temps incertain en première ligne donc de l'équipe parisienne.
Merci beaucoup pour ce journal Hélène Fromenty. On vous souhaite un bon week-end, un
Merci
long week-end
beaucoup.
Puisque ce sera le plus long de l'année, vous l'avez dit, on passe à l'heure d'hiver. Et du côté du temps, quelles sont les nouvelles ?
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Bonsoir Jean-Pierre Hameau.
Bonsoir Claire.
Trois départements en vigilance, pluie, inondation.
Oui, Claire, il s'agit de la Lozère, du Gard et de l'Ardèche. D'ailleurs, les pluies sont en train de se renforcer sur les Cévennes avec un maximum d'intensité attendu cette nuit et demain toute la journée. Prévoyez 200 à 300 mm d'eau entre ce soir et dimanche matin, ce qui correspond à une quantité de 200 à 300 litres d'eau par mètre carré.
Et plus généralement pour demain ?
Eh bien, en plus de cet épisode cévenol, on attend des pluies soutenues, voire orageuses, entre les Bouches-du-Rhône et le Var. De bonnes pluies aussi sur une grande moitié est du pays, avec en prime des rafales de vent comprises entre 60 et 80 km par heure. Et puis, en allant vers les côtes de l'ouest et du nord-ouest, après une matinée grise et faiblement pluvieuse, les nuages laisseront une petite place aux éclaircies l'après-midi. Côté température, les minimales en fin de nuit seront comprises entre 9 et 15 degrés. Les maximales l'après-midi, toujours douces pour la saison, évolueront entre 13 et 23 degrés du nord au sud.
Merci beaucoup Jean-Pierre Rameau de Météo France.